VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique ici aux États-Unis. Quel sera le prochain chef de la diplomatie américaine? C'est la grande question que l'on se pose au sujet du futur gouvernement du président élu Donald Trump. Les fervents partisans du prochain locataire de la Maison-Blanche refusant que ce poste stratégique revienne au modéré républicain Mitt Romney, ex-ennemi juré du milliardaire. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le secrétaire d'État est considéré comme la voix et le visage de l'Amérique à travers le monde, donc il s'agit d'un poste important qui fait l'objet d'une âpre bataille pour savoir qui succédera au démocrate John Kerry à la tête du département d'État, ministère des Affaires étrangères de 70 000 employés, pilotant le premier réseau diplomatique de la planète. Citant des sources de l'équipe de transition, le New York Times avance que l'entourage du président élu se déchire entre l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, et le candidat républicain malheureux à la présidentielle de 2012, Mitt Romney. Monsieur Giuliani, soutien de la première heure de Monsieur Trump, mais sans expérience en politique étrangère, avait dès le début exprimé son désir de diriger la diplomatie. Cet ancien maire de New York considérerait même ce poste comme devant naturellement lui revenir. Face à lui, M. Romney, un républicain battu en 2012 par le président démocrate sortant Barack Obama, représenterait une formidable prise pour Donald Trump parce qu'il pourrait rassurer les centristes du Parti républicain et les alliés des États-Unis qui s'inquiètent du saut dans l'inconnu de la politique étrangère du magnat de l'immobilier. Mais cet ex-gouverneur du Massachusetts, que l'on compare dans le style à John Kerry, avait traité le candidat Trump aux primaires de charlatan et d'imposteur. Et des caciques républicains loyaux de la première heure du prochain 45e président ne manquent pas de dire tout le mal qu'ils pensent de l'option Romney au département d'État.
Afrique maintenant, en Côte d'Ivoire, un autre procès de la crise post-électorale de 2010-2011 s'ouvre lundi à Abidjan. C'est le procès dit des disparus du Novotel. À l'époque des fêtes, l'ancien directeur de l'hôtel Novotel et trois clients ont été enlevés, puis tués en avril 2011 pendant la crise post-électorale ivoirienne. Selon l'acte d'accusation, 10 personnes seront dans le box des accusés. 5, dont le général Bruno Dogbo-Blé, proche collaborateur de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son épouse Simone, pour séquestration et assassinat. Les autres répondant de l'accusation d'enlèvement et ou de disparition de cadavres. Au Burkina Faso, les militaires sont autorisés à nouveau à entrer au gouvernement. Le Parlement a voté jeudi un amendement pour abroger l'interdiction faite aux hommes en tenue de s'engager en politique. Le colonel à la retraite, Lona Charles Ouattara, est député. Il explique pourquoi il s'oppose à cette loi.
Si les militaires sont autorisés à faire de la politique, ça voudrait dire qu'il y a trop d'officiers supérieurs finalement. Ça veut dire aussi que la pyramide des grades n'est pas maîtrisée. C'est ce qui explique que sous la transition, par exemple, qu'on ait eu jusqu'à 18 officiers qui était membre du CNT, c'est-à-dire du Conseil national de la transition, l'Assemblée passée sous la transition. Vous pensez bien que ce n'est pas une bonne gestion de l'armée, ça, des personnels militaires.
Le colonel à la retraite, Lona Charles Ouattara, député au Parlement du Burkina Faso.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Angola, la justice angolaise a annoncé aujourd'hui le report d'une semaine de l'ouverture du procès des 37 personnes accusées d'une mystérieuse tentative de coup d'État contre le président José Eduardo dos Santos qui aurait été perpétrée en janvier dernier. Le début du procès a été retardé au 2 décembre à la demande des avocats de la défense, selon le président du tribunal de Luanda, en charge du dossier. Les médias d'État angolais ont révélé jeudi, à la surprise générale, que le président Dos Santos, au pouvoir depuis 1979, avait été victime d'une tentative de putsch au petit matin du 31 janvier. Les accusés sont d'anciens membres de la branche armée du principal parti d'opposition, l'ancienne rébellion de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA, a précisé le parquet angolais. Politique en RDC, l'UNC de Vital Kamerhe et ses alliés participeront au prochain gouvernement d'union nationale du Premier ministre Sami Badibanga. C'est l'option retenue par le bureau politique de l'UNC élargi à ses alliés. L'annonce a été faite après leur entretien avec le Premier ministre Badibanga, ce qui met un terme aux spéculations concernant la composition du gouvernement. Mais quelques conditions ont été posées. On écoute Vital Kamere au micro de Walter Nkouy de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous avons dit au Premier ministre exactement ceci. L'UNC et alliés acceptent de vous accompagner, Monsieur le Premier ministre Sami Badibanga, dans l'application de l'accord du 18 octobre pour amener le pays jusqu'aux élections. Mais vous devez tenir compte de la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans le Grand Nord. Et si je parle de Beni, Butembo, Lubero, Rutshuru, Masisi, vous connaissez toutes ces contrées-là. Deux, vous devez tenir compte de la représentation plus ou moins 30% des femmes, mais aussi des jeunes dans le gouvernement. Il faut innover. Vous devez absolument, dans le cadre de l'application de notre accord, poursuivre les mesures de décrispation politique et le respect strict des droits humains. Et nous pensons que nous avons rencontré l'attention du Premier ministre. Et s'il dit ce qu'il a promis, il risque d'apporter une innovation et réussir.
Vital Kamere, leader de l'UNC en RDC. Rwanda, Kigali réclame des excuses du Vatican pour le rôle des catholiques dans le génocide rwandais de 1994. Le gouvernement a jugé profondément inadéquates les excuses présentées dimanche dernier par l'Église catholique rwandaise à l'occasion de la clôture par le pape François de l'année sainte de la miséricorde. Pour une réaction, Eric Manirakiza a joint à Kigali, a joint à Rome, l'abbé Janvier-Marie-Gustave Yameogo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone au sein du secrétariat pour la communication du Vatican.
J'ai visité le Rwanda en 96, donc 2 ans après le génocide. Je suis allé à Kibeho où j'ai vu les murs de l'église encore avec les traces de sang. C'était assez vif et j'ai écouté plusieurs témoins survivants à l'époque. Et vraiment, c'était horrible. On a raconté les horreurs. Des prêtres ont été tués. Des prêtres ont tué leurs collègues. Des séminaristes ont massacré des camarades séminaristes, des religieux, des religieuses également. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez qu'il y a des prêtres qui sont en prison, des religieux, des religieuses qui sont en prison. Il s'agit d'une église qui est à la fois victime et bourreau. De nombreuses églises ont été le théâtre de tueries et de masse. Et dans cette situation, que l'église se reconnaisse en tant qu'entité morale coupable du génocide, c'est là, je pense, le nœud du problème.
Il y a le gouvernement, par exemple, qui veut des excuses du Vatican lui-même. Quelle est votre considération là-dessus?
Je pense que le pape Jean-Paul II, durant le génocide lui-même, au mois d'avril 1994, a appelé d'une voix suppliante le peuple rwandais de ne pas céder aux sentiments de haine et de vengeance, de pratiquer courageusement le dialogue et le pardon. C'est vrai, c'est une tragédie qui a été vécue par tout le monde entier et l'Église aussi en a souffert. Même plus tard, le pape Jean-Paul II a envoyé le cardinal Etchegaray spécialement dans cette situation. Ce qui est dramatique, c'est que ce sont des chrétiens, effectivement, qui ont massacré d'autres chrétiens. De là à dire que l'Église est coupable, oui, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu une Église qui a planifié et donné des ordres. Il y a eu des individus qui ont participé, des particuliers. Mais quand il s'agit maintenant de reconnaître une responsabilité du Vatican, je pense qu'à ce niveau, c'est assez délicat.
Parce que pour vous, ce n'est pas la hiérarchie de l'Église qui a planifié ce qui s'est passé.
Moi, je ne peux pas l'affirmer, puisque je vous rappelle qu'il y a eu 3 évêques qui ont été assassinés dès le départ. Et je rappelle toujours ça. Il y a des morts de part et d'autre. Il y a eu des actes de lâcheté de part et d'autre. Il y a eu des actes de bravoure aussi de part et d'autre.
Et finalement, comment réconcilier l'Église catholique au Rwanda avec le gouvernement?
Tout processus de réconciliation est long et lent. Comme je le répète, moi, j'appelle tous vos auditeurs d'abord à la prière pour l'apaisement des cœurs. Et encore une fois, ceux qui m'écoutent, que ce soit des Rwandais que je connais, ils savent très bien que il y a eu des lâchetés de part et d'autre. Maintenant, je ne sais pas qui, si c'est le pape lui-même qui, en écoutant avec l'ambassade du Rwanda ou du Saint-Siège, pourront résoudre et aider, dans quelle mesure ils peuvent aider à dénouer cette situation. Je sais qu'ils y travaillent depuis longtemps, mais je ne vois pas d'issue par rapport à, j'allais dire, cette accusation directe, quoi.
L'abbé Janvier-Marie-Gustave Yameogo au Vatican.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.